On arrive dans le château.
Bonjour, je m'appelle Marwel, j'ai 14 ans.
Hello, I am speaking English. Alors, je m'appelle Madjula Diaby.
Bonjour, je m'appelle Ketia, j'ai 12 ans.
Je me présente, je m'appelle Ikra, je suis en 3e.
Je m'appelle Keren, j'ai 12 ans.
Salut, je m'appelle Amine, j'ai 14 ans.
C'est trop bizarre d'entendre ta voix.
L'exposition s'appelle L'Abîme.
C'est un peu comme si l'histoire c'était un océan et que la surface en fait c'était ce qu'on connaissait, que les hommes vivaient dans des cavernes et que le bas bah, c'est ce qu'on voulait pas savoir en fait.
Nous allons...
La liberté, c'est quoi
c'est le
quoi
rec est tout en rouge et une...
Pour moi, la liberté, c'est être libre.
Bonjour, chers chenapans de l'écoute, auditeurs et auditrices, bienvenue dans l'émission Les reporters du château sur Jet FM 91.2.
Cette année, notre équipe de reporters est retournée au château des Ducs de Nantes pour vous présenter la nouvelle exposition nommée L'Abîme.
Dans cette émission, nous allons parler de l'esclavage à travers des chroniques non criminelles,
des capsules sonores,
des rencontres interviews
et d'autres surprises.
Sur le plateau, nous retrouvons nos chroniqueurs préférés, moi-même Madjula et des nouveaux.
Et oui, comme moi, Ketia, mais aussi Keren. Salut, Amine.
Bonjour.
Marwel.
Comment ça va ?
Et Ikram. Coucou. Petite parenthèse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les reporters du château, c'est quoi à votre avis ?
Eh bien, Madjula, c'est une équipe de collégiennes et collégiens qui se transforme en journalistes pendant les vacances et le mercredi. Nous faisons des reportages radio avec Jet FM et sur Instagram avec l'association Fragile.
Nous espérons que vous apprécierez cette émission. On donne tout de suite la parole à Keren et Ikram qui vous présentent l'exposition Abîme.
Nous, les reporters du château, sommes allés visiter l'exposition L'Abîme au château des Ducs de Bretagne à Nantes. Le sujet porte sur la traite atlantique et l'esclavage colonial de 1707 à 1830.
La traite signifie le commerce d'esclaves. L'Abîme est constitué de deux grandes parties, l'une sur l'histoire de l'esclavage et de la traite, notamment à Nantes, qui fut le premier port négrier de France.
La deuxième partie fait écho à l'actualité en exposant les mémoires et les héritages de cette période, l'esclavage contemporain et le racisme.
Le terme « l'abîme », choisi pour titre de l'exposition, vient du philosophe et du romancier Édouard Glissant.
La réalité antillaise étant construite pour lui sur trois expériences de gouffre, la cale du bateau, la mer où l'on jette les corps et l'inconnu qui terrifie. Ce sujet a été la base de notre travail de reporter. Et nous sommes fiers de vous le partager.
C'est un thème sensible et tellement important pour la mémoire collective et pour que chacun continue de se mobiliser pour l'égalité entre tous les hommes. N'hésitez pas à visiter cette exposition que vous pouvez retrouver au château des Ducs de Bretagne jusqu'au 19 juin 2022.
Maintenant, on va parler de ce qui nous a marqué le plus dans l'expo. Et toi, Ikram, qu'est-ce qui t'a marqué le plus ?
Moi, ce qui m'a vraiment marqué, ce sont les chiffres. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde à s'investir dans le commerce d'esclaves. Il y a eu entre 13 et 17 millions d'hommes, de femmes et d'enfants déportés durant 3 siècles. Tout ça à cause de préjugés et de couleurs de peau. J'ai trouvé ça horrible que des humains fassent ça à d'autres humains. Cela me fait penser à la Deuxième Guerre mondiale. J'ai appris qu'au début, tout a commencé par le Portugal et l'Espagne, qui ont beaucoup emmené d'Africains en Amérique. La France a participé à ce commerce aussi. Le bilan de la traite atlantique est dramatique. Nantes, d'où est parti 43% des traites françaises, est le premier port négrier de la France. On n'en parle pas assez et il faut encore se mobiliser pour apprendre cette histoire aux gens et parler de ce qu'il se passe actuellement. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure de l'esclavage moderne avec Amine.
À Nantes, des noms de lieux, des quartiers d'habitation, des détails architecturaux témoignent à chaque instant de ce que fut le développement colonial d'une ville, d'un territoire, d'un continent, appuyé sur un commerce à nul autre pareil. celui de captifs arrachés à leur terre natale, déportés pour être mis en esclavage dans les colonies européennes. Pour autant, les collections conservées dans un ancien grand port esclavagiste, si elles révèlent ce qu'a pu être ce commerce d'êtres humains, ne permettent à aucun moment de raconter l'esclavage. Il faut les renverser parfois complètement pour tenter d'évoquer ce que fut pour celles et ceux qui le vécurent l'horreur de ne plus appartenir.
Donc on estime aujourd'hui, si je vous donne des chiffres, aujourd'hui on estime que les bateaux européens ont déporté à peu près entre 13 et 17 millions de personnes qui ont été mises en esclavage. Et pour la France, c'est un peu plus d'1 300 000 personnes. À Nantes, on a fait partie un peu plus de 1720 campagnes de traite. Et c'est 550 000 esclaves à peu près qui ont été déportés par les bateaux nantais.
Et tout de suite, je passe la parole à ma collègue Marouel, qui va parler du code noir.
Moi, en fait, ce qui m'a marqué, c'est le code noir. C'est quelqu'un qui s'appelle Colbert, qui l'a écrit en 1685. C'est une sorte de carnet où il y a des règles rédigées en 60 articles. Et il était écrit pour les maîtres dans les plantations, pour savoir ce qu'ils pouvaient ou ne pouvaient pas faire à leurs esclaves. Par exemple, il y a un article qui dit « déclarant les esclaves être meubles ». Ce qui montrait bien qu'on pouvait les vendre ou les acheter comme des objets. Et c'est ce moment de la visite, oui, qui m'a touchée, car j'ai ressenti de la tristesse.
Pourquoi ils ont créé le code noir ? Enfin, c'est qui, plutôt ?
En fait, ils ont légiféré, finalement, le statut d'un objet qui est l'esclave, dans les plantations. Il y a 60 articles de loi à l'intérieur de ce petit livre. Il a été créé au XVIIe siècle. Donc, on pense que à l'intérieur de ce code noir, il y a plusieurs articles. Il y a un article qui dit « Déclarons les esclaves être meubles ».
Ça veut dire que les esclaves, ce sont que des objets, c'est ça ?
C'est ça. On va appeler ça des biens meubles. Alors, les biens meubles, c'est quelque chose qu'on peut vendre ou qu'on peut échanger. Ah, oui. En fait, c'est pour donner un cadre en fait, aux choses. C'est ça, en fait, un texte de loi, c'est donner un cadre aux choses. À un moment donné, au XVIIIe siècle, il y a des procès. Des gens qui disent, bah ouais, mais moi, mon maître, il m'a maltraité. Donc, il m'a maltraité, bah voilà, et derrière, il peut finalement gagner un procès parce qu'il y a des lois, en fait, derrière. Vous voyez, aujourd'hui, c'est beaucoup plus poussé, les juridictions, les lois aujourd'hui dans notre pays, parce que voilà, on est dans une démocratie qui a une constitution et qui a des lois. Mais déjà à l'époque, on imposait en fait des choses.
Je vais vous passer le micro à Kéren et Kétia, qui vont vous parler des personnes qui se sont enrichies grâce à ce commerce. Bonne écoute sur TFM.
Ce qui nous a le plus marqué, ce sont les vêtements portés par les bourgeois de cette époque et leur volonté de montrer aux autres leur richesse. Ils se faisaient représenter sur des tableaux avec des perruques et du maquillage bien visible. Ils avaient un ventre rond pour qu'on voit qu'ils mangeaient à leur faim. Sur ces peintures, les esclaves, toujours en arrière-plan, sont représentés avec des crayons dans leurs oreilles, un collier et sont vêtus généralement de blanc. La richesse des bourgeois se voyait aussi par la présence de marchandises venant des Antilles. Le chocolat, le café, le tabac et le sucre. Sur l'un des tableaux, l'homme donne même des morceaux de sucre à ses chiens, ce qui montre qu'il vit dans la richesse et ne manque de rien. À l'époque, l'image que l'on montrait était déjà très importante. Aujourd'hui, nous exposons nos vêtements de marque, nos téléphones qui nous servent à faire des selfies, nos voitures, nos bijoux, notre villa. Finalement, ce besoin d'être remarqué n'a pas changé, mais le format et la façon de faire a été modifié. Et tout de suite, nous passons la main à Majoula et Amine qui nous parleront des conditions sur le bateau.
Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2 dans notre émission sur l'exposition Abîme du château de Nantes.
Avec Amine, ce qui nous a marqué dans l'exposition, c'est le passage sur les conditions des esclaves dans les bateaux des armateurs de la traite atlantique. Mais un armateur, c'est quoi, Amine ?
Un armateur, c'est quelqu'un qui s'occupe de superviser le voyage, l'échange des marchandises et le budget. C'est le chef de l'expédition et un peu comme un chef d'entreprise. D'abord, ils vont chercher les esclaves en Afrique, qu'ils achètent contre des produits de type vin, armes, tissus, ustensiles et bijoux. Ensuite, ils vont sur la côte américaine dans les colonies pour vendre des esclaves et acheter du sucre ou du café, qui sera revendu en France comme des produits de luxe.
Merci Amine, c'est beaucoup plus clair. On a découvert grâce à Elodie que les bateaux ont en fait 3 étages, le pont, l'entrepont et la cale. Contrairement à ce que l'on croit, les esclaves étaient entreposés dans l'entrepont, un espace spécialement pensé et construit à cet usage. On voit sur des images réalisées à l'époque, notamment sur le fameux Marie Séraphique, que les personnes mises en esclavage sont stockées comme des objets et triées par catégorie, les nègres, les négrettes, les négrions et les négrites.
Moi, je me suis mis à leur place et j'ai imaginé, par exemple, l'odeur qui doit être horrible vu qu'ils sont séquestrés et qu'ils ne prennent qu'une douche par mois. J'ai trouvé ça horrible, personnellement.
Contrairement aussi à ce qu'on pense, les armateurs n'avaient pas d'intérêt à maltraiter les personnes esclavagisées, car cette marchandise leur coûtait cher. Ils devaient donc les nourrir suffisamment et les sortir. C'est lors de ces sorties sur le pont qu'il pouvait y avoir des rébellions.
Les armateurs le savaient et ont créé des armes anti-émeutes. Par exemple, des boules de pique qu'ils répandent sur le pont pour que les personnes esclavagisées aient peur de marcher dessus.
Ça m'a fait froid dans le dos.
Ils avaient aussi des matraques et des tromblons. Il faut savoir que 6 à 8% des bateaux négriers ont fait face à des révoltes.
Parfois, pour faire un exemple, les armateurs balançaient des esclaves par-dessus bord. Mais aussi, il y avait surtout des suicides comme actes de résistance.
Merci Amine et Madjoula pour cette intervention. On va maintenant écouter un micro-trottoir que nous avons réalisé au château et à l'exposition. Bonne écoute.
Alors, première question. Pourquoi êtes-vous venu au château aujourd'hui ?
Parce que nous visitons Nantes sur 2-3 jours et qu'en regardant un peu sur Internet, c'est ce qui est apparu en premier, le château des Ducs, c'est ça ? Oui, voilà. Okay. Donc, nous voilà.
Je suis de passage à Nantes, j'habite dans le sud, à Montpellier, mais je suis originaire de Nantes et je suis venu visiter cette exposition qui traite d'un sujet absolument terrible. Quel esclavage, le racisme qui doit être combattu très fortement aujourd'hui encore.
On est passé devant le château, on s'est arrêté.
Pour voir l'exposition de l'abîme.
On est venu visiter Nantes et le château fait partie du beau patrimoine à visiter.
Je suis venue au château pour voir les deux expositions. Je suis venue pour voir aussi Azoumé.
Pour emmener mes 3 petits-enfants faire le tour du château, qui est toujours aussi agréable à voir.
Que pensez-vous de l'exposition ?
Elle est très bien organisée.
Elle est très très bien faite, je trouve. Et je disais justement à mon ami, il faudrait que toutes les écoles viennent.
Alors, à titre personnel, je trouve très bien qu'il y ait une sorte de mise en relation entre, au début, tout le phénomène de la traite négrière vue à travers le monde méditerranéen, et puis ensuite, à la fin, l'aspect un peu plus nantais des choses, des personnes un peu vues de manière un peu individuelle, etc. Donc ça, c'est intéressant.
L'horreur.
Ouais.
Voilà, que des êtres humains puissent traiter d'autres êtres humains comme ça, ouais. Je sais pas, il n'y a pas de mots, quoi. C'est l'horreur.
Il y a un certain nombre de pièces que j'avais jamais vues ici. C'est toujours intéressant de pouvoir avoir certaines visions un peu plus complétées, un peu plus concrètes de ce qu'on connaissait déjà.
Enfin, cette exposition, elle a des valeurs particulières qui sont bien amenées et qui sont intéressantes. Nantes doit assumer tout ce qu'elle a pu faire à cette période-là.
L'histoire un peu sombre de Nantes à travers cette exposition.
C'est un thème très sensible aussi, je trouve.
Oui, c'est un thème qui est très sensible et qui, encore aujourd'hui, suscite un certain nombre de débats. Donc c'est une exposition qui est intéressante et importante aussi.
Alors bon, il est peut-être un peu difficile de mémoriser tout ce qui est accroché au mur, mais je vais acheter le livre en bas, comme ça je pourrai le regarder chez moi avec mes petits-enfants.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans tout ce que vous venez de voir ?
L'architecture, avec ses fondations romaines. Donc là, enfin, on voit que
il y a une histoire, quoi. Il n'y a pas que ces murs, cette partie-là.
C'est rare. C'est assez remarquable en fait, de pouvoir vraiment voir toute la structure de l'édifice. Et puis voilà, on a vu les enfants aussi étaient contents parce qu'ils ont pu admirer un château comme ils n'avaient jamais, jamais vu.
Deux choses, je pense notamment aux chiffres qui ont été explicités dans cette exposition que j'avais jamais vue, même en regardant par exemple sur internet ou peu importe.
Cette œuvre-là, enfin, qui est passée en mapping sur le sol, en projection vidéo.
Mais tout m'a marqué. Je me dis qu'il faut porter cette histoire terrible, tragique.
Puis j'ai quand même appris des choses, hein, notamment au niveau des bateaux. Là, la pièce à côté, là, c'est très intéressant. Ce que j'ai appris, c'est qu'effectivement, il y avait des esclaves. Tous n'étaient pas débarqués aux Amériques et dans les Antilles, et que certains, très peu nombreux, revenaient avec leurs propriétaires sur Nantes. Ça, alors là, je ne savais pas du tout. Si on n'était pas déclaré par son propriétaire à l'arrivée à Nantes, eh bien, finalement, on pouvait obtenir la liberté, parce que la déclaration au registre de Nantes permettait effectivement que l'esclave n'obtienne pas sa liberté. À l'inverse, pas déclaré, libre. Les peintures aussi sont très intéressantes. La symbolique est intéressante aussi.
Je suis historien et anthropologue, ce qui fait que je connais plus ou moins l'histoire, donc, mais j'ai quand même appris beaucoup de choses nouvelles, bien entendu, certaines choses que je ne savais pas.
Vous venez d'écouter le micro-trottoir que nous avons réalisé. On a aussi réalisé une fiction sonore et nous allons vous la présenter.
Couleur d'esclaves.
Je m'appelle Victor, j'ai 25 ans et je suis un esclave bientôt libre. Mais commençons par le début de l'histoire. Chapitre 1, de la proie à l'objet. Par une douce journée de printemps, avec ma fille et ma femme, nous ramassions notre raisin.
Papa, on peut en manger ?
Non, Julia.
Je ne pus finir ma phrase car nous étions encerclés par des rabatteurs. Il y avait une chasse et nous étions les proies. Dans la région, de plus en plus de personnes étaient kidnappées pour être mises en esclavage. Nous pensions être en sécurité dans le chalet que j'avais construit au milieu de la forêt. Je m'étais trompée. Prise au piège, je vois ma fille et ma femme apeurées, dans les bras l'une de l'autre. Elles sont violemment séparées, attachées par des chaînes et jetées dans un chariot. On m'y balance aussi. C'est une catastrophe. Nous parcourons beaucoup de kilomètres. Le trajet est très dur car nous avons très peu à manger et à boire. Ma femme et moi ne pouvons pas rassurer notre petite Julia, car dès que nous prenons la parole, nous nous faisons battre.
Pleure pas ma petite Julia, tes parents t'aiment, t'aiment de tout ton cœur, pleure pas.
Après des jours et des nuits de trajet, où beaucoup d'autres blancs comme nous se faisons kidnapper, nous arrivons sur le port de Brest. Nous y voyons un grand marché aux esclaves.
Allez, descendez, plus vite que ça,
dit l'un des marchands. Ils nous séparent, les hommes, les enfants et les femmes ont chacun leur côté.
Regardez-moi cette belle prise, on a du mâle, de la femelle et même des petits. Tenez, regardez cette belle marchandise.
J'ai le sentiment d'être un objet, d'être utilisé. J'ai de la colère et de la tristesse en même temps. Ils nous poussent vers des acheteurs qui nous regardent des pieds à la tête.
Celui-là, il fait à peu près 1m80. Voyez ses muscles saillants, cette peau claire. Il sera parfait pour les champs. Je vous le vends avec sa femelle et sa petite. Elles seront très efficaces.
C'est ainsi que nous avons été vendus contre une caisse de vin, d'armes et de bijoux.
Chapitre 2, de la perte à la révolte. Je suis entassée avec plusieurs autres hommes dans la cale de bateau. C'est dans cette cale que j'ai rencontré Marc Roland et que je me suis liée d'amitié avec lui. Lors de notre sortie quotidienne, les femmes n'étaient pas encore toutes rentrées dans la cale qui leur était réservée. C'était à ce moment-là que je vis ma fille, Julia.
Elle était malade, toute blanche, maigre, avec les lèvres sèches et des grosses difficultés pour marcher. Je me suis sentie mal en voyant ma fille maltraitée comme ça. Quand soudain, un armateur arriva et balança Julia par-dessous bord. Elle risquait sans doute de contaminer les autres.
À ce moment-là, j'ai senti la rage monter en moi. Tout le monde commença à s'énerver et à violenter l'équipage. Nous étions à main nue face aux armes de l'équipage. Certains esclaves furent tués, d'autres fouettés. Et nous n'avons d'autre choix que de rentrer dans la cale.
Après quelques semaines, le bateau arriva à La Réunion où nous avons été vendus à des riches familles. Ma femme et moi étions placés dans différentes plantations, mais par chance, je me suis retrouvée avec Marc Roland. La vie était difficile dans la plantation. Nous devions supporter la chaleur. Je me faisais fouetter et on était mal nourris. Un soir, nous avons décidé de fuir la plantation.
Chapitre 3, s'éveiller.
On nous a parlé d'un certain John, esclave depuis plusieurs années dans les plantations, qui connaît bien la région. Nous sommes allés le rencontrer pour établir une stratégie. John partira avec nous et nous aidera à voler le bateau des armateurs. À la nuit tombée, nous arrivons au bateau la peur au ventre. Nous larguons les amarres. Enfin, la liberté.
J'espère retrouver ma femme. Même si je crains qu'elle ne subisse le même sort que ma fille. Mais pour le moment, c'est trop dangereux. John connaît un groupe de marrons qui vivent au nord de l'île. L'avenir est incertain. Tout ce que je sais, c'est que je commence ma vie de pirate et je suis déterminée, angoissée, mais je suis dans l'obligation de réussir. Victor, Victor, réveillez-vous, nous sommes enfin arrivés à Nantes. Que vous arrive-t-il, Victor? Vous êtes en sueur, vous semblez être effrayé.
J'ai fait un rêve monstrueux. J'étais esclave et vous l'étiez aussi, John. J'ai perdu ma femme, ma fille, j'ai vu tant de gens souffrir, je suis en état de choc.
Mais qu'est-ce que vous racontez, enfin? Votre famille va très bien, elle vous attend au port. Vous êtes un homme blanc, nous sommes français. Nous ne pouvons pas être esclaves, c'est un mauvais rêve.
John, ce n'est pas un mauvais rêve, c'est une réalité. Je ne veux plus jamais me réveiller en sachant que nous torturons des gens. Cela fait longtemps que je pense à cela. Je vais rejoindre un vieil ami abolitionniste, il sera à me guider. Je refuse de participer un jour de plus à cette horreur. Un jour, cette injustice cessera et nous serons tous égaux.
Couleur d'esclave.
Une histoire écrite, interprétée et bruitée par
Amine,
Madula,
Ikram,
Kerem, Ketia,
Marwell.
Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2. On vient d'écouter notre super fiction sonore. J'aimerais vous poser une question, mes chers collègues. Comment avons-nous fait pour réaliser la fiction sonore? Pourriez-vous expliquer aux auditeurs quelles ont été les étapes?
Tout d'abord, on a pris des post-it et on a écrit écrit sur le personnage principal. Déjà, comment il était, son physique. Ensuite, on a mis son nom et on a mis s'il avait une famille ou pas. On a mis sa taille aussi. Et du coup, on a pris tous les post-it, on les a rassemblés et on a voté pour chacun des éléments qu'on avait mis.
Et on a imaginé l'histoire. On a décidé de faire un inversement sur l'esclavage. Ce n'étaient plus les Noirs, mais les Blancs qui devenaient les esclaves. Et on a imaginé l'histoire.
Ensuite, on s'est séparés sur plusieurs parties de l'histoire. Personnellement, je m'occupais de la fin. Ketia et Keren s'occupaient de...
Début.
Ouais, le début.
Et moi, je travaillais la partie 2 avec ma collègue Majula.
On a travaillé sur la partie bateau et la plantation jusqu'à qu'ils décident de s'enfuir.
Moi, Ketia, j'ai eu travaillé avec Keren sur comment ils se faisaient kidnapper et où par les rabatteurs. Et quand il se faisait embarquer au marché.
Après avoir écrit le scénario et tout, on a enregistré nos voix avec ce scénario et voilà. Et après, on a fait le bruitage.
Les pleurs de la petite quand on kidnappe sa famille et elle-même.
Très marrant à faire.
On a utilisé un drap pour faire le vent. Et on a aussi fait des battements de cœur.
On a fait aussi les pas.
On a aussi fait l'ambiance marché et l'ambiance forêt.
On a aussi fait le cognement de la porte de Marc Roland.
Moi, ce que j'ai préféré, c'était faire quand l'esclave pleurait, quand il se faisait fouetter, ou sinon les pleurs de la fille.
Moi, ce qui m'a plu, c'est de faire des bruitages, car je trouvais ça drôle. Mais je pouvais pas rire, car ça devait tout gâcher. Voilà. C'est pas quelque chose qui est facile.
Personnellement, ce que j'ai préféré, c'est écrire l'histoire. Parce que ça nous donnait libre cours à notre imagination. Et en plus, c'était sympa, vu qu'on était nous-mêmes les écrivains.
Moi aussi, j'ai aimé écrire. J'ai tout aimé, moi.
Ah, et au fait, s'il y a des réalisateurs quelconques qui écoutent l'émission, on est disponible pour faire des films.
On est des
films sur notre fiction.
Des actrices.
Je vais maintenant passer la parole à Marwal et Ketia qui vont nous présenter Anne qu'on a rencontrée au château.
Jette
FM
91.2.
Les reporters du château.
Colo
Radio.
Durant notre visite, nous avons rencontré Anne, qui est une des 9 conservatrices du château. Elle s'occupe des collections du musée, telles que des tableaux, des statues et divers objets qui témoignent de l'histoire.
Son métier consiste à étudier les collections en se renseignant sur leur nature, sur les créateurs ou la créatrice, et sur le sens de l'œuvre.
Être conservatrice, c'est aussi inventorier les objets, sachant qu'il y en a plus de 40 000 au château. Il est important de pouvoir les classer et les retrouver. Mais le plus important est l'entretien des objets. Afin de les préserver, Anne veille à les placer dans les meilleures conditions possibles. Il faut faire attention au climat, au lieu, à la lumière et la poussière. Si un objet est abîmé, Anne s'occupe de demander à ce qu'il soit restauré.
En fait, le but de tout cela, c'est de rendre ces œuvres accessibles au public par différents moyens, comme au travers d'une exposition, mais aussi des livres ou encore sur Internet à l'aide d'une base de données. Le métier de conservatrice nous permet donc de garder des traces du passé.
On s'est rencontrés autour d'une statue dont elle nous a raconté l'histoire. On l'a enregistrée et on va l'écouter.
Vous avez vu que la ville de Nantes, elle a été impliquée dans ce qu'on a appelé la traite des Noirs, la traite de l'esclavage. C'est une période de l'histoire qui s'est passée au XVIIIe siècle et la ville de Nantes, elle s'est beaucoup enrichie. Il y a des familles qui se sont énormément enrichies sur du commerce d'êtres humains, parce qu'en fait, on parle de ça, hein. C'est faire du commerce, vendre des gens. Et cet argent qui a enrichi la ville, il se voit encore. Quand on visite la ville de Nantes, on voit des très très beaux monuments, des très beaux hôtels particuliers. Et ça, c'est grâce à l'argent de la traite. Cette histoire, longtemps, on n'en a pas parlé. Donc, le XVIIIe siècle se passe, la ville s'enrichit, et puis ensuite, on se tait. Ça devient tabou. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Tabou, on n'a pas le droit d'en parler. Et puis, petit à petit, sous la pression des associations, hein, c'est beaucoup d'associations qui ont permis la libération de cette parole, se met en place des recherches d'historiens et puis des travaux d'associations. Et l'idée, c'est de pouvoir parler de ce qui s'est passé à Nantes, mais pas que à Nantes. Et va avoir lieu en 1992 une très grande exposition qui va être la première exposition où on va parler de ce qui s'est passé au XVIIIe siècle. Hein, où on va pouvoir exposer des objets, montrer les traces de cette histoire-là. C'est la première fois que ça se passe, c'est un bouleversement. Et ça va donner lieu à une libération de la parole, une libération des recherches des historiens aussi. Mais c'est que les balbutiements, c'est que le début. En 1998, donc on est peu de temps après l'exposition, il y a un projet politique, hein, les dirigeants de la ville, ils veulent mettre en place un mémorial à l'abolition de l'esclavage. Et ça va être installé sur le quai de la Fosse. Et la statue, ici, elle est installée en avril 1998 sur le quai de la Fosse. C'est une artiste qui a créé cette œuvre. Elle s'appelle Lisa Marco de Roir. Et puis en fait, quelques jours se passent et elle est saccagée. Saccagée, ça veut dire qu'elle va être cassée, les bras vont être cassés, elle va être mise au sol. Donc très vite, elle est récupérée, elle est mise ici à l'abri au musée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, l'histoire, elle n'est pas passée. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est en 1998, donc c'est deux siècles, trois siècles après ce qui s'est passé, et finalement, l'histoire, elle ne passe pas. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour qu'on en parle. Donc ça, c'est important et ça a aussi lancé tout un tas de nouvelles recherches historiques, de débats, les associations ont continué à œuvrer de plus en plus fort pour continuer à libérer cette parole et continuer à travailler sur le sujet de la traite. Pour qu'enfin, on puisse, on va dire, à la fois en 2012, ouvrir l'actuel mémorial que vous avez peut-être visité, hein, qui se situe en face du palais de justice, là sur le quai de la Fosse, et puis une exposition aujourd'hui comme la nôtre, l'Abîme, pour continuer à parler de ce qui s'est passé, le faire connaître aux générations futures. Vous m'avez demandé tout à l'heure, est-ce que c'est vous qui avez ajouté les chaînes? Donc c'est pas nous, c'est vraiment l'artiste qui a conçu l'œuvre comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est le symbole de la libération, hein, on va l'imaginer comme ça. Une femme, un homme qui lève les bras au ciel, qui regarde le ciel. En fait les bras on les a pas parce qu'ils ont été cassés, mais elle les avait en l'air. Alors on dit elle, la statue, mais c'est vrai que c'est plutôt souvent une femme qui représente comme ça ce qu'on appelle une allégorie, c'est-à-dire une représentation d'une idée. L'idée de la liberté, l'idée de l'abolition, c'est souvent des femmes qui représentent ces idées. Et donc on peut imaginer en effet que ce soit plutôt une femme.
J'ai pas trop l'impression que c'est une statue concernant la libération.
Ah, qu'est-ce que ça t'évoque?
L'inverse en fait. Avec les chaînes et tout, le filet justement, j'ai l'impression que c'est un filet. Mm. Puis surtout la terre. Au début, moi je pensais que c'était du béton en fait. Du béton que, pour représenter le fait qu'on est piégé justement.
Oui, comme englué, comme une tenue. Oui, c'est tout à fait ce que tu dis. En effet, la cage avec le fil de fer, là, les éléments métalliques. Les chaînes qui sont plus ou moins cassées, donc on sent qu'elle est juste en train de se dégager, mais c'est pas encore ça, quoi. Il y a encore plein de choses qui l'entravent.
Moi, je vois genre qu'elle veut être libérée, qu'elle veut mourir, elle veut juste mourir, et voilà, qu'on la libère de ses chaînes ou de ce qu'elle subit. Mmh. Moi, je pense ça.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que l'artiste, même si elle a été saccagée, on l'a dit, elle a été abîmée, cette œuvre, mais elle n'était pas terminée, il n'y avait pas de l'enduit partout, c'était pas tout propre, tout beau, tout lisse. Je pense que l'artiste, elle a voulu montrer ce que tu dis justement, qu'il y avait des cicatrices, qu'il y avait des traces, que même après les combats pour l'abolition de l'esclavage, les populations qui les ont vécues, qui les ont subies, elles sont marquées pour toujours, et même leurs descendants, et même toutes les générations qui vont venir après vont garder des traces de ce qui s'est passé. Et c'est, je pense que c'est très très intéressant ce que tu dis, c'est que l'œuvre elle porte le signe de ça, du fait qu'on ne sort pas indemne d'une aventure, d'une histoire comme celle-là.
Je pense aussi que l'œuvre elle dit qu'ils n'ont pas encore fini leur combat, parce que Il y a toujours des actes de racisme, même invisibles, et aujourd'hui, il y a encore l'esclavage. C'est pas que les Noirs, parce qu'elle n'a pas fait de cette œuvre une œuvre noire. Donc l'esclavage, c'est partout, ça existe depuis longtemps, depuis l'Antiquité aussi. Et je pense qu'elle pense que ça ne finira jamais.
Oui, tout à fait, je crois que tu as raison. C'est aussi une œuvre qui dit qu'il faut continuer à se battre.
Vous venez d'entendre un extrait de l'interview d'Anne, l'une des conservatrices du château des Ducs de Bretagne. Grâce à cette rencontre, on s'est demandé ce que c'est l'esclavage moderne.
Nous avons demandé aux visiteurs ce qu'ils pensaient de l'esclavage moderne. Écoutons leurs réponses.
Si on vous dit l'esclavage moderne, vous en pensez quoi ?
Esclavage moderne. On peut le qualifier comme ça, alors même que les gens sont juridiquement libres, mais on peut considérer que les conditions de leur travail sont effectivement assez dures pour les classer d'esclavage.
Voilà, ça fait penser à Uber Eats, où finalement, c'est des personnes qui livrent d'autres personnes, enfin qui veulent faire ce que les autres veulent faire pour pas beaucoup d'argent. Donc ça pourrait être des esclaves modernes, ça, oui.
Moi, je dirais que c'est les gens qui sont sous-payés, non ?
Ça arrive dans certains pays, notamment en Afrique du Nord, à cause de la situation des réfugiés, enfin les personnes qui essaient de traverser la Méditerranée, notamment en Libye.
Particulièrement la Chine, je dirais, avec les jeans, les iPhones.
Genre l'exploitation des enfants pour la société de consommation aujourd'hui en France. Tout ce qu'on consomme, on se dit, bon, ça va, c'est rien, on achète, mais derrière, il y a des heures et des heures de travail, des familles déchirées, des choses comme ça.
Il existe encore, non seulement dans des pays spécifiques, on en a exemple avec le Qatar, avec d'autres pays, et puis il y en a des illustrations encore aujourd'hui en France, en fait, de manière marginale, mais qui existent encore malgré tout.
Oh, l'esclavage, eh bien, se manifeste de différentes façons. Des adultes sont kidnappés dans certains pays pour travailler, obligés de travailler. Je pense à l'esclavage sexuel, au travail imposé aux enfants dans certains pays. Je travaille en Amérique du Sud et je sais que dans certains pays d'Amérique du Sud, je l'ai vu, on fait travailler de force des petits-enfants. C'est tout ça, l'esclavage, aujourd'hui.
C'est pareil, hein, c'est une horreur. Il y en a, malheureusement. En plus, plein, bah ouais, plein, plein. Et on fait pas grand-chose.
Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2 dans notre émission sur l'exposition du château de Nantes. Vous venez d'écouter notre micro-trottoir et maintenant nous allons faire place au débat. Donc, et vous les filles, que pensez-vous de l'esclavage moderne ?
Bah, pour moi, l'esclavage moderne, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui ont un salaire vraiment minimum. Qui font beaucoup d'efforts. Par exemple, en France, les étudiants ou encore les gens qui travaillent dans les entreprises, ils travaillent beaucoup et pourtant ils ont un salaire minimum. C'est ce que j'appelle pour moi un esclave de la société. Mais il y a aussi des esclaves, des femmes qui sont battues chez elles et tout le reste qui sont en mariage forcé. Ça, c'est aussi une forme d'esclavage pour moi. Ou encore comme Coca-Cola qui s'est installé en Amérique du Sud où en fait, les enfants, la première chose qu'ils boivent de leur vie, c'est du Coca. Ou encore les Ouïghours en Chine.
En France, il n'y a pas qu'en France, mais aussi il y a dans d'autres pays. Comme il l'a dit dans le micro-trottoir, il a dit Uber Eats. Uber Eats, c'est des gens qui sont à vélo tous les jours, tous les soirs, tous les matins, qui travaillent non-stop. Déjà, ils sont payés un salaire vraiment minimum, c'est vraiment le minimum. Toute la journée, ils sont en train de pédaler. Pour moi, c'est aussi une forme d'esclavage. Nous, on est là en train de commander, on dit c'est rien, mais c'est aussi une forme d'esclavage où on doit faire quelque chose.
Bah, je suis pas vraiment d'accord sur ce qu'a dit Ikram. C'est eux qui ont choisi, c'est pas vraiment, ils sont obligés. Après, peut-être, on pourrait plus dire que c'est des esclaves dans le fait que même s'ils se blessent et tout, ils sont pas aidés par l'entreprise en question, voilà.
Moi, je suis pas d'accord parce que déjà, eux, ils viennent, malheureusement, ils viennent sans papier, comme les étrangers, bref, ils viennent sans papier. Donc, ils sont obligés de trouver un travail, même dans le ménage ou quoi que ce soit, ils vont pas les prendre parce que il faut que tu montres un papier. Eux, ils ont pas tout ça parce que eux, il y en a, ils dorment dehors, il y en a, ils ont pas de quoi de manger. Il y a pas d'aide par derrière, genre, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a pas d'aide.
Ouais, ça, on est d'accord. En fait, là, je pense qu'en fait, Ikram, ce qu'elle essaye de t'expliquer, c'est que même s'ils ont choisi leur mode de vélo et tout le reste, ils n'auront jamais d'aide par l'entreprise ou par autre chose. Parce que, par exemple, quelqu'un qui aura ses papiers, il aura forcément une aide, une assurance de vie et tout le reste. Mais quelqu'un qui n'a pas ses papiers, on le laissera s'il a un problème. C'est ça qu'elle veut dire.
Déjà, les migrants qui viennent ici, ils ont peur. Eux, ils veulent juste travailler et gagner de l'argent et faire un peu leur vie.
En gros, ce sont les migrants qui viennent d'un autre pays, qui ont pris des bateaux souvent illégalement et que parfois, ils n'arrivent même pas à destination parce qu'ils se font kidnapper pour être esclaves. Mais là, s'ils arrivent à arriver en France, ils pensent qu'ils vont gagner du travail et tout le reste, que la France, ça sera meilleure. Mais parfois, ils n'arrivent même pas à trouver du travail parce qu'ils ne sont pas originaires de France.
Je pourrais souligner un point. C'est intéressant ce que tu as dit sur la traversée. Du fait que des fois, ils n'arrivent pas à destination. On pourrait un peu comparer ça, un peu comme les esclaves, justement, qui étaient amenés pour faire une traversée, justement. Et du coup, en parlant d'esclaves modernes, pour faire un peu la transition, au Mali, il me semble.
Je crois que c'est en Libye.
C'est en Libye. Et je crois eux aussi, ils fuient la guerre et pour un meilleur pays. Et en fait, ils se font stopper. L'État en question, il les emprisonne aussi. Et du coup, là aussi, ils les séquestrent dans des conditions aussi invivables. Sauf que là, en fait, ils vont faire chanter les familles. Et là aussi, en fait, ils vont les frapper, ils vont les torturer devant les familles pour que les familles, elles envoient une rançon et qu'ils obtiennent de l'argent. Ce qui me choque dans cette histoire, c'est que, en fait, ils font ça exactement pour les mêmes raisons que l'esclavage existe. Enfin, en fait, ils font ça aussi pour l'argent.
Je dis que ce qui se passe dans le monde, c'est vraiment pas bien et qu'il faudrait militer pour ça et que je remercie toutes les associations qui militent, qui aident les migrants et je dis bon courage à tous ceux qui sont esclaves un peu de la société et de tout le reste et je vous dis bon courage et j'espère que vous serez libérés un jour.
Merci Amine et à tout le monde pour ce débat. On arrive à la fin de notre émission.
On espère que vous avez apprécié cette émission dans laquelle on a mis du cœur et du travail.
Nous nous retrouvons la semaine prochaine sur Instagram pour la publication de notre reportage photo. On vous attend sur notre compte Reporter du Château des Ducs. Tout collé.
Dédicace à Marion du foyer Cantigny qui nous a offert des marbrés au chocolat vraiment délicieux.
Au restaurant social du Carré des Services pour les bons repas.
À Alison de l'association des Dérives.
À Aude, Elodie, Anne et Pauline qui nous ont accueillis au château de Nantes et nous ont appris plein de choses.
Aux visiteurs et visiteuses du château qui ont répondu à nos questions.
Mais aussi à Laure, Yelena, Clémence, Jeff et Sarah de JTFM.
Et bien entendu à nos petits chenapans de l'écoute.
N'oubliez pas que ce souvenir c'est bien, mais tirer des leçons de l'histoire, c'est mieux pour changer les choses.
Alors, allez voir l'exposition et parlez-en autour de vous. Retrouvez toutes les informations sur les sites du château des Ducs de Bretagne. On se quitte en musique. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Ah là 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 là.
On rêve de musée, mais pas d'être muséifié. Sous la nef, l'ancienne gare, mais personne n'y prend garde. Dans nos poitrails ont lieu tous nos voyages. Dehors, la désolation contemple son ouvrage. Je sais, je suis le jeune noir à l'épée. En bas des tours despotiques où l'on hume l'odeur du mauvais shit. La cité parle l'ancien grec, salade, tomate, oignon, moitié légumes, moitié schneck. Mais peut-on faire la révolution avec Toulouse-Lautrec? Je sais pas, je suis le jeune noir à l'épée. Vénus au bras d'un aigu sous la scandaleuse promesse d'un mariage temporaire derrière un abribus. Si l'interdit participe à l'ardeur du désir, sans doute s'il y avait bienveillance, il n'y aurait pas d'humeur hystérique. Je sais, je suis le jeune noir à l'épée. À l'époque je me disais, et comment pourrais-je m'aimer si sans cesse je dois lutter? Et comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais? Sans cesse je luttais, je luttais. Comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais. À l'époque je me disais, et comment pourrais-je m'aimer si sans cesse je dois lutter? Et comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais? Sans cesse je luttais, je luttais. Comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais?
On a vu nos potes se faire fumer, hey. On prône la paix, pas l'épée, hey. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ces décors, on tombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer. épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ce décor, on tombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer, on prône la paix, pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ce décor, on tombe sous ces décombres.
On crève à s'user, l'âme torréfiée sous l'effet couplé des addictions et des renoncements. Ignoré, on constate juste l'avilissement. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, garçon. Dire que nous étions censés la faire, la révolution. Je sais, je suis le jeune noir à l'épée. De vieilles villes frigides qui se la jouent, banlieue lascive, se dénude à loisir sur les plages naturistes du oui-dire. Les seins nus, qu'en pensent-ils des injustices que subissent les plus fragiles? Je sais pas, je suis le jeune noir à l'épée. À l'époque je me disais, et comment pourrais-je m'aimer si sans cesse je dois lutter? Et comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais? Sans cesse je luttais, je luttais. Comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais? À l'époque je me disais, et comment pourrais-je m'aimer si sans cesse je dois lutter? Et comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais? Sans cesse je luttais, je luttais. Comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais?
On a vu nos potes se faire fumer, on prône la paix, pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ce décor, on tombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer, on prône la paix, pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ce décor, on tombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer, on prône la paix, pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ce décor, on tombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer, on prône la paix, pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ce décor, on tombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer, on prône la paix, pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ce décor, on tombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer, on prône la paix, pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ce décor, on tombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer, on prône la paix, pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ce décor, on tombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer, on prône la paix, pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ce décor, on tombe sous ces décombres.
Retrouvez l'ensemble des podcasts du Sonolab sur notre site au www.sonolab.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les ondes le mercredi et le dimanche à 11h sur Jet FM 91.2.